Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama. Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une demi-heure pour parler de cinéma. Et on commence avec les Oscars. Cette récompense et 11 nominations, dont le meilleur film, meilleure réalisation, meilleure actrice pour Everything, Everywhere, All at Once, qui est le grand gagnant de la 95e cérémonie des Oscars. C'est un film qu'on avait chroniqué dans cette émission. L'Oscar du meilleur acteur est allé à Brenda Fraser pour The Whale, film que tu as descendu, Manu, la semaine dernière. Et rien pour Spielberg. Et puis des récompenses variées pour À l'Ouest, rien de nouveau. Autre film, alors peu apprécié par Guillaume, c'était lui qui l'avait chroniqué dans cette émission. Voilà, c'est tout ce que nous dirons sur ces Oscars. Bonjour Manu.
Bonjour.
Alors tu as deux films aujourd'hui.
Oui, deux films sud-américains, Adios Entusiasmo et Un Varón.
Quant à Marine, elle nous parlera de Mon Crime, film de François Ozon. Ce sera l'occasion de jouer un blind test autour de la filmographie de François Ozon. Et tu seras le seul à jouer puisque t'es tout seul dans le studio aujourd'hui. Et puis Guillaume, qui n'a pas pu être avec nous, a pu enregistrer ses chroniques. Il nous parlera de Ouria, de Mounia Medour et puis de Emily de Frances O'Connor. Mais on débute avec un jeune qui sort d'un foyer de Bogota et qui est confronté à la rudesse des rues de son quartier, qui devra choisir entre adopter ses codes d'une masculinité agressive ou embrasser sa nature profonde. C'est Un Varón de Fabian Hernandez.
Bah oui, c'est le film et le film est bien.
This is Cinérama.
Oui, c'est bien mon avis.
Toute l'ambition de Un Varón, un premier long métrage, pourrait se résumer lorsqu'apparaît la première fois donc Carlos, le protagoniste du film. Il s'apprête à se faire couper les cheveux et la coiffeuse, enfin c'est pas vraiment une coiffeuse, c'est celle qui le coiffe, lui demande quelle coupe il souhaite. Sa réponse claire et laconique révèle sa position un peu malaisante. Il veut une coupe qui fasse homme. La problématique de la masculinité agressive est le projet central de Un Varón, littéralement un homme. Carlos vit dans un foyer du centre de Bogota, un refuge qui le protège un peu de la brutalité extérieure. À l'approche de Noël, il désire partager un moment avec sa sœur et sa mère, mais il est rattrapé par son environnement toxique, marqué par la violence endémique de la loi de la rue. Alors ce jeune homme au physique un peu androgyne est constamment tiraillé entre sa nature profonde, une tendance, on va dire, très légère quand même, parce que c'est pas vraiment dit dans le film, à la féminité, et puis une attirance systémique envers les codes dominants de la virilité. À ce titre, tous les hommes que croise Carlos sont des masses de muscles, des individus qui ne durent que par la force et le culte du corps. En comparaison, la fragilité du corps de Carlos, silhouette indécise dans ses vêtements très amples, le place, malgré lui, comme une anomalie au cœur d'un univers très rude. Alors ceux qui s'attendent à un film, on va dire, plein de bruit et de fureur, à une immersion physique au cœur de la banlieue explosive de Bogota, peuvent passer leur chemin. Fabian Hernandez tourne le dos au spectaculaire, à une forme de sublimation de la violence qui était présente dans des films comme Pixot, un film d'Hector Babenco du début des années 80, ou plus près de nous, La Cité de Dieu. Le cinéaste n'emprunte pas la même voie, signant une œuvre à la mise en scène plus contemplative, très absorbée par son acteur principal, Felipe Ramirez, véritable attraction du film. Il capte aussi, sans jamais verser dans la complaisance, l'atmosphère tendue qui règne dans les quartiers chauds de la ville. Le décor, qui ressemble à un no man's land assez fascinant, évoque pour nous une sorte de paysage urbain apocalyptique, jonché de ruines, de bâtiments désaffectés et de graphes en forme de fresques. Voilà, fasciné par son interprète, le cinéaste finit, alors non pas par oublier son sujet, mais parfois par rester à la surface de ces thématiques passionnantes, par pudeur sans doute, ou de vouloir rester dans le trouble et l'ambiguïté, au risque de provoquer un ennui poli, une certaine indifférence à ce qui se passe à l'écran. Alors, en s'écartant finalement des impératifs d'un certain cinéma de genre, greffant, on va dire, film d'action et récit social, le film est gagné par une certaine mollesse, une absence de tension pourtant inscrite au cœur du projet. Néanmoins, le film est rattrapé par sa fin très ouverte qui offre un peu d'espoir à ce film. Des gens sont désenchantés et peu aimables.
Un Varón de Fabian Hernandez est en salle depuis le 15 mars. Son Papicha avait comblé beaucoup de spectateurs. Mounia Medour revient avec Ouria. Cette fois-ci, nous sommes toujours à Alger, aux côtés alors d'Ouria, une danseuse qui voit ses rêves de carrière s'envoler après une agression. Et c'est Guillaume qui nous en parle.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
C'est un jeu, t'as perdu.
Elles avaient triomphé avec Papicha en 2019, elles reviennent avec Ouria. Donc la réalisatrice Mounia Medour fait à nouveau équipe avec l'actrice Lina Koudri pour transformer l'essai. En l'état, Ouria a déjà prouvé que cet essai savait comment trouver son public, car il a rencontré un certain succès lors de sa diffusion festival, en particulier au Cinémètre de Montpellier où nous avions eu la chance de le voir, et un certain succès public ne devrait pas être trop difficile à construire par la suite. Il faut dire qu'Ouria est assez riche dans sa proposition. Mais qu'est-ce que c'est en fait Ouria ? C'est le prénom d'une jeune femme qui doit alterner entre ses rêves de danseuse et une réalité bien plus complexe pour elle dans un Alger toujours pas forcément prêt à voir des femmes s'émanciper par leur corps. Alors, femme de ménage le jour, elle participe à des paris clandestins la nuit pour pouvoir joindre les deux bouts, mais cette double vie va s'interrompre de la façon la plus cruelle qui soit le jour où un perdant revanchard va, en lui brisant le corps, briser son rêve de devenir une ballerine. Entourée de femmes, elle va reprendre contrôle de ce corps et de sa destinée et essayer tant que possible de continuer à s'imposer dans la violence essentiellement masculine de sa ville et dans sa vie.
Pourquoi vous avez relâché Ali ?
Madame, la justice, elle a fait son travail.
C'est un criminel impuni et vous l'avez relâché. Je vais trouver un avocat.
C'est pas la fin du voyage. C'est une nouvelle vie qui commence.
Je m'en fous.
Ouria, on l'a compris, ne brille pas par son originalité, en dépit de sa richesse principalement visuelle. Principalement visuelle car et c'est là que le film rencontre ses limites, c'est qu'il reste en surface de certains thèmes pourtant passionnants abordés par le film. La question de la vengeance, de la justice, de la passion aussi, autant de belles pistes pas forcément bien conclues ou développées et qui risquent de frustrer plus d'un spectateur, surtout quand on est sensible au reste du long métrage soigné et très fort. Lina Koudri crève à nouveau l'écran dans un rôle doublement physique et c'est bien évidemment pour cela aussi que l'aspect pas forcément achevé de certains arcs narratifs ou de l'écriture globale pourront gêner. Quand on a un tel personnage, on aimerait forcément le suivre le plus loin possible. Bon, en définitive, si vous aimez la danse et les récits d'émancipation, Ouria saura quand même probablement vous combler.
Ouria de Mounia Medour est en salle depuis le 15 mars. Dans les années 30 à Paris, une jeune et jolie actrice sans le sou ni talent est accusée du meurtre d'un célèbre producteur, mais la voilà acquittée. À elle, la nouvelle vie faite de gloire et de succès jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour. C'est Mon crime de François Ozon et c'est Marine qui nous en parle.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
Madeleine Verdier, jeune actrice sans le sou, aurait tué à bout portant le grand producteur Monsieur Montferrand. Encore une fois, il s'agit d'une femme.
Madeleine est une jeune comédienne, ou du moins elle aspire à l'être. Pauline, sa colocataire et meilleure amie, est de son propre aveu une mauvaise avocate à une époque, les années 30, où les femmes qui exercent ce métier sont non seulement minoritaires, mais également très mal vues. Toutes les deux croulent sous les dettes et leur situation empire le jour où Madeleine est accusée d'avoir tué un producteur de théâtre aux mains trop baladeuses. Mais les deux femmes vont retourner la situation en leur faveur et parvenir à gagner un procès très médiatisé qui va changer leur vie.
Le parquet est rempli de crimes non élucidés. Et il m'aura suffi d'un seul interrogatoire pour découvrir la coupable.
Je confirme le crime de ma cliente, mais je confirme aussi son innocence.
Quand ils connaîtront les détails de son crime, ma petite Madeleine... ils t'admireront.
François Ozon, le plus prolifique des cinéastes français, 22 longs métrages et 18 courts quand même, qu'il réalise, écrit et produit lui-même, poursuit son exploration du théâtre filmé avec une nouvelle comédie vintage très peu de temps après Peter Van Kant. Si son dernier film se déroulait dans un loft berlinois des années 70, sur fond de cinéma, Mon crime se déroule dans le milieu du théâtre parisien des années 30, avec une tonalité bien plus légère et sautillante, pas une once de mélodrame. Ici, nous sommes dans une comédie populaire, enfin surtout pour CSP+. Mon crime s'ouvre sur une séquence dialoguée au rythme si frénétique qu'il nous est d'abord un peu difficile d'entrer dans la danse, mais on finit par se prendre au jeu en grande partie grâce à une troupe de comédiens très investis. Comme souvent chez Ozon, les acteurs et les actrices jouent avec un plaisir palpable. Et comme souvent chez Ozon, les acteurs se mélangent. On a ainsi Danny Boone, qui prend d'ailleurs un accent du Sud un peu discutable, qui rencontre Isabelle Huppert, ou encore la jeune Rebecca Marder face à Lucchini ou Dussolier. Car Ozon est un découvreur d'acteurs. Il a révélé Melville Poupeau dans Le Temps qu'il reste, montré la fibre dramatique d'une Alexandra Lamy connue jusque-là pour ses comédies. Il a découvert Ramola Garay dans Angel et Marine Vacte dans Jeune et Jolie. Ici, c'est un duo de jeunes actrices qui affrontent l'ancienne génération du cinéma français. Nadia Tereskiewicz, révélation des Amandiers et de Seules les Bêtes, qui joue d'ailleurs encore une fois une actrice. Et l'excellente Rebecca Marder, l'ancienne pensionnaire de la Comédie française, qui s'en donne, comme on peut s'en douter, à cœur joie dans ce huis clos, au dialogue très écrit.
Notre crime serait d'être des hommes.
Son crime. Laissez-moi rire.
Mon Dieu, ce crime est une atrocité. Mais que voulez-vous ? Je lui dois ma fortune.
Mon fils, épouser cette Verdier, ce sera un double crime.
J'avoue mon crime.
Alors, ayant déjà vu Ozon se frotter au théâtre filmé plus d'une fois, il est un peu compliqué de ne pas comparer Mon crime à Poti, Je suis femme ou encore Peter Van Kant. Heureusement, ici, Ozon ajoute un nouveau territoire à explorer, le cinéma muet, à l'occasion de petites scénettes qui interviennent plusieurs fois dans le film et qui participent d'ailleurs à maintenir son tempo comique. Car si François Ozon a toujours aimé, au cours de sa filmographie, mettre en scène des femmes qui s'émancipent, il avance ici sur des chemins glissants, en adaptant une pièce des années 30 de Louis Verneuil et Georges Bert pour y ajouter un sujet des plus actuels, le traitement médiatique du phénomène MeToo et ses retombées sociologiques. Ozon ne parle pas de féminisme en faisant un film d'époque, il transpose une problématique actuelle dans les années 30 au risque de paraître anachronique pour montrer toute l'absurdité et le déséquilibre des rapports hommes-femmes. Alors, il s'avère parfois un peu proche du dérapage, hein, comme Nicolas Bedos dans Mascarade. Il pense mettre en scène des personnages féminins forts et indépendants, mais il est dépeint surtout comme menteuse et manipulatrice. Heureusement, le réalisateur n'a rien perdu de sa subtilité ni de son talent d'écriture, et on comprend rapidement que l'on n'est pas devant un film militant. Ozon ne cherche pas à produire un discours sur le sujet MeToo, il cherche à produire un cinéma de divertissement. Alors personnellement, je n'ai jamais autant aimé Ozon que lorsqu'il nous offre des thrillers, mais Mon crime, avec sa désuétude assumée et sa mise en scène enlevée, se laisse voir sans déplaisir, en attendant son prochain film.
Nous parlions de Mon crime, donc de François Ozon, film que tu as vu également, Manu.
Oui, je suis un peu moins enthousiaste que Marine. Hein. En fait, le film est vraiment intéressant. Sur les 20 premières minutes, on se dit qu'on va assister à une comédie policière dans l'esprit de certains films des années 30. Hein. Et puis, alors je ne sais pas, c'est certainement lié à l'origine. C'est une pièce de théâtre à l'origine. Hein. C'est l'origine de la pièce qui me semble pas très bonne. Comme il l'avait déjà fait avec 8 femmes, qui n'était pas une pièce très bonne, puisqu'elle était signée Robert Thomas, réalisateur culte de Mon curé chez les nudistes. Donc là, passer 20 minutes où on s'attend vraiment à, je dirais même à vraiment une comédie policière enlevée, le film commence à faire du surplace. Et c'est un festival pour moi de cabotinage, d'acteurs parfois inspiré, comme Danny Boone, excellent, avec un accent marseillais. Et puis, malheureusement, Isabelle Huppert, que je trouve à la limite insupportable. Alors, peut-être parce qu'on la voit peut-être un peu trop sur les écrans.
Ah oui, d'ailleurs.
Sinon, les deux comédiennes principales sont vraiment formidables.
Hmm. Isabelle Huppert, qui est dans un autre film, hein, La syndicaliste.
La syndicaliste, oui.
Alors, il fait souffler le chaud et le froid, ce François Ozon, qui a une longue carrière, hein, plus de 30 années de carrière et près de 25 films. Ça veut dire qu'on pourrait faire 5 blind tests quasiment, hein, puisqu'on vous fait écouter 5 extraits donc de titres de films à deviner. Là, j'ai choisi donc 5 films pour ce blind test. Premier extrait.
Franz, nous présente Vera, une vieille copine. Je devrais dire un vieux copain. Il s'est fait couper la bite à Casablanca.
Bonjour, madame.
Bonjour.
Excusez-moi, vous êtes donc la femme qui a tenu le coup 7 ans avec Léopold, c'est ça?
Si ça n'avait tenu qu'un mois, nous serions encore ensemble aujourd'hui.
Faut dire que Vera adore être attachée. De préférence, les pieds et les mains. Prête jour et nuit à être exhibée, pelotée. N'est-ce pas, Vera? C'est aussi ce que tu préfères, Franz, non? C'est pour nous humilier que t'es rentré plus tôt. Mais c'est incroyable. Au lieu de te réjouir de me revoir, tu fais crâler. T'en fais pas, je m'habille et puis nous partons. Tu viens, là.
Oh non, moi j'ai encore envie de rester un peu. Je trouve la situation vachement excitante.
C'est trouvé, Manu.
Et c'est Goutte d'eau sur pierre brûlante.
Oui, film de 2000, un film adapté d'une pièce de théâtre de Rainer Werner Fassbinder, et non pas donc du créateur de Mon curé chez Vénédiste, hein, cette fois-ci. Donc, pièce que le réalisateur allemand a écrit à l'âge de 19 ans, mais qu'il n'a jamais mise en scène ni au théâtre ni au cinéma. Le film se déroule uniquement en huis clos et ne compte que 4 acteurs. Bernard Giraudot, qu'on entend, Malik Zidi, Ludivine Sagné et Anna Thompson. Léopold, un homme d'affaires de 50 ans, installe chez lui son amante de 19 ans, Franz. Mais au bout d'un moment, eh bien, les ex des deux amants débarquent. Il y a une fille et puis eh bien, une transgenre. 68 000 entrées seulement en France.
Et comme quoi la qualité de la pièce, ça compte, parce que je pense que c'est un des meilleurs films de Ozon, en fait.
Eh oui, mais pas celui qui est le mieux récompensé en salle, en tout cas. Deuxième extrait de ce blind test consacré à la filmographie de François Ozon.
C'est encore un secret, mais je crois qu'il veut se marier. C'est merveilleux, non?
Tu parles. Entretenir un nouveau ménage.
Mais ton fils ne demande rien.
Oui, mais ça va venir. Tu sais, s'il se marie, la fille qui lui a mis le grappin dessus, elle sait où elle tombe. Elle sait qu'il y a des parents et une usine derrière, crois-moi.
Non, mais je te rassure tout de suite. Sa famille est à l'abri. C'est la fille unique de la pâtissière, place de la cathédrale. Floriane Marquiset.
Mon Dieu.
Oh, Robert.
Oh.
Mon Dieu, mais Robert. Oh.
Nom de Dieu, de nom de Dieu.
Oh. Écoute, il paraît qu'elle est très gentille. Elle est charmante, elle étudie le piano.
Elle étudie le piano.
Mais quoi, t'aurais préféré qu'elle joue de la clarinette?
Écoute, il est hors de question que Laurent épouse Floriane Marquiset.
Ah mais... Mais Robert...
La Pujol qui épouse une Marquiset, mais ce serait la déchéance.
Mais tu es vraiment trop snob, écoute. Tu ne la connais même pas, attends moins de l'avoir rencontrée.
Je ne la rencontrerai jamais, tu entends. Et Laurent n'épousera pas la fille Marquiset, un point c'est tout. Tu as compris?
Écoute, Robert, si tu veux mon avis...
Ton avis? Quel avis? Tu as un avis?
Mais Robert...
Ce que je te demande, c'est de partager le mien. Sinon, tout le reste, c'est des paroles et de l'énergie perdue. Alors, sois gentil, contente-toi de tes petits poèmes.
Trouvé.
Et c'est donc Potiche.
Oui, autre film adapté d'une pièce de théâtre. Hein. Là, on entend Catherine Deneuve et Fabrice Luchini, mais dans ce film, il y a aussi Gérard Depardieu. Suzanne est l'épouse d'un riche industriel, Robert Pujol, qui dirige son usine de parapluies d'une main de fer et s'avère aussi désagréable et despote avec ses ouvriers qu'avec ses enfants et sa femme. Sa femme qu'il prend pour une... Potiche, c'est une comédie de mœurs sur le sexisme qui a remporté eh bien, pas mal de spectateurs. Hein. 2,2 millions de personnes l'ont vu en salle en France. Troisième extrait de ce blind test.
Ça fait plus de 30 ans, Alexandre.
Oui, bah, j'ai besoin de lui parler.
À quoi bon le déranger avec ses vieilles histoires? Il n'était pas à Lyon à cette époque, il n'y est pour rien.
Maman, il s'agit d'aujourd'hui, du père Prénat qui est toujours en contact avec des enfants.
Mais c'est devenu un vieillard inoffensif et sûrement malade.
Et alors, c'est pas une raison pour que l'Église ne fasse rien et ne le condamne pas?
Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse aujourd'hui? Ça ne sert plus à rien.
Barbara pourrait le destituer. Ce sera un acte fort, symbolique, qui prouverait que l'Église est bien du côté des victimes et condamne la pédophilie. Vous en avez parlé à papa?
Vaguement.
Qu'est-ce qu'il dit?
Que tu as toujours été doué pour remuer la merde.
Quand Prénat a été muté à Neulise en 91 et que je vous ai tout raconté, vous auriez pu agir, vous avez rien fait.
Tu avais déjà 17 ans.
Et c'est grâce à Dieu.
Oui, film sorti en 2019 avec Melville Poupeau qu'on entend, mais il y a aussi Denis Ménochet, Swann Harlow. Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui au scout officie toujours auprès d'enfants. Alors, il se lance dans un combat et il est rejoint par d'autres victimes, mais ses aveux ne vont laisser personne indemne. 915 000 entrées en France et puis César du meilleur acteur dans un second rôle pour Swann Harlow pour ce film Grâce à Dieu. Quatrième extrait de ce blind test consacré à François Ozon.
Et toi, tu m'as trompé depuis qu'on est ensemble? Qu'est-ce que tu aimerais que je te réponde?
Ben non, bien sûr.
Ah, c'est ça, c'est incroyable. Tu me demandes de comprendre tes infidélités alors que tu veux que je te sois fidèle.
Non, mais ça, c'est mon petit côté méditerranéen, macho, c'est pas...
Ben moi, j'ai trompé Marion qu'une fois. Une seule.
Tu crois que c'est le moment?
Ben, je sais pas, on est tous là à se faire des confidences. Je me disais que je pouvais raconter ma petite histoire. Pourquoi il y aurait que les PD qui auraient le droit d'être infidèles? Je suis sûr que vous avez envie d'entendre une belle histoire d'adultère hétérosexuel, non?
Pourquoi pas si c'est drôle?
Drôle, je sais pas, mais intéressant, ouais. Ça te dérange peut-être, Marion?
Non, ça me dérange pas.
Bon, on va peut-être vous laisser?
Non, non, non. Je suis curieuse de savoir ce qu'il va vous raconter.
Nous entendions Valeria Bruni-Tedeschi sur ce dernier dialogue. Ça n'a pas été trouvé ici. C'est 5 moments de la vie d'un couple d'aujourd'hui, de la séparation jusqu'à la rencontre.
5 fois 2, c'est ça?
Oui, ah, voilà. C'est oui. Un compte à rebours, hein, finalement, pour essayer de voir à partir du moment où ça a foiré, comment c'était au début et quels étaient peut-être les éléments qui montraient que ça ne durerait pas. 509 000 entrées en France pour ce film de 2004. Dernier extrait de ce blind test consacré à François Ozon.
Je m'inquiétais tellement de ta réaction, de savoir si tu souffrais pas trop.
Ah, Sidonie. Les êtres évoluent. Mmh. Avant, j'étais différent, c'est vrai. Mais tu sais, dans chaque histoire d'amour, ce sont nos défauts qui finissent par prendre le dessus.
Oh, je sais pas. Moi, avec Lester...
Excuse-moi, mais tu n'arrêtes pas de voyager. Toi et Lester, vous n'avez jamais vraiment eu le temps de vous connaître. Mm. Franz et moi, nous étions ensemble jour et nuit. Et dans ces conditions, tu comprends vite à qui tu as affaire.
Vous vous disputiez, c'est ça?
Non. Parfois, il y avait comme un froid. Mm. Tu veux être tendre, mais tu as peur. Peur d'être le plus faible.
Je crois que je comprends.
Tu crois que c'est le plus intelligent qui cède, Sidonie? Eh bien, non.
Trouvé.
Et c'est donc Peter Von Kant,
oui.
Nouvelle adaptation d'ailleurs de
Fassbinder.
Fassbinder,
bah oui.
C'était un film par contre. Hein.
On avait commencé ce blind test avec eh bien une adaptation d'une pièce de Fassbinder. Et puis là, on termine encore avec Fassbinder, mais en 2022, hein, puisque ce film est sorti l'an dernier. On entendait Denis Ménochet qui donnait la réplique à Isabella Gianni. Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec son assistant Karl, qu'il se plaît à maltraiter. Et grâce à la grande actrice Sidonie, il rencontre et s'éprend d'Amir, un jeune homme d'origine modeste. Il lui propose de partager son appartement et de l'aider à se lancer dans le cinéma. À noter que ce film a eu 2 nominations, César du meilleur acteur pour Denis Ménochet, mais il ne l'a pas eu, et aussi le César du meilleur jeune espoir masculin pour Stéphane Crépon qui joue l'assistant, et lui non plus ne l'a pas eu. On terminera avec cette fameuse phrase de Jean-Luc Godard, « Ozon n'est pas aux ours, regarde la mer » aurait dû s'appeler « Regarde la merde ». Voilà. Si... Eh oui.
Mais « Regarde la mer », c'est dommage parce que c'est très bien aussi. C'est un bon... C'est un moyen métrage d'ailleurs.
Hein. Oui, mais il n'a pas fait demi-mesure, Jean-Luc. Ainsi s'achève donc ce blind test consacré à la filmographie de François Ozon, puisque nous parlions de Mon Crime, qui est en salle depuis le 8 mars. Le film Émilie imagine le parcours initiatique d'Émilie Brontë, jeune femme rebelle et marginale qui va écrire son chef-d'œuvre, Les Hauts de Hurlevent. C'est Émilie de Frances O'Connor.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Émilie, how did you write Wuthering Heights?
Au-delà même de son sujet, ce qui interpelle en premier lieu lorsqu'on s'intéresse à Émilie, c'est son casting et sa réalisatrice. Frances O'Connor, avant de passer derrière la caméra, s'est d'abord fait connaître comme actrice et fut au début des années 2000 un visage marquant pour tout amoureux des salles obscures en enchaînant les rôles marquants dans plusieurs genres différents. Elle a joué l'objet de l'affection de Brendan Fraser dans le très drôle endiablé d'Harold Ramis, la mère démissionnaire du chef-d'œuvre Intelligence Artificielle de Steven Spielberg ou une infirmière coincée entre deux ralentis de John Woo dans son brillant film de guerre Windtalkers, en passant en 2012 par la case horreur avec un rôle très intense de mère martyre dans Conjuring 2, le cas Enfield de James Wan. Donc apparemment, jongler d'un registre à l'autre et travailler avec autant de réalisateurs et sensibilités différentes a été une bonne école car les enseignements glanés sur tous ces tournages ont été visiblement très profitables lorsqu'est venue l'idée de raconter soi-même une histoire. Ne restait plus qu'un sujet, et quel sujet? Pour boucler la boucle, celle qui fut révélée par son interprétation d'Emma Bovary décide de donner corps à une autre héroïne de la littérature, sauf que cette fois-ci, il n'est pas question d'un personnage mais d'une autrice tout aussi célèbre, Emily Brontë, et à travers elle, la fratrie Brontë et la naissance de leur incroyable impact dans le domaine des lettres.
I have often struggled to understand you.
Émilie revient sur la vie dure et austère d'Emily Brontë, mais aussi de ses frères et sœurs qui marquèrent à peu près tous de manière indélébile la littérature anglaise. Émilie, c'est une âme damnée qui va, un peu à la manière de Mary Shelley, donner naissance à l'une des œuvres fondatrices du fantastique, mais aussi de la littérature gothique. Chez elle, pas de morceaux de cadavres cousus qui reprennent la vie sous l'impulsion d'un savant fou génial, mais une histoire d'amour et de vengeance impitoyable et cruelle entre Heathcliff et Catherine, prisonniers de leur passion et d'un paysage anglais aussi beau que patibulaire. Vous auriez bien évidemment reconnu Les Hauts de Hurlevent, œuvre matricielle considérée comme l'une des plus importantes du 19e siècle et que l'on retrouvera jusqu'en chanson chez Kate Bush ou comme judicieuse inspiration pour appuyer la réussite thématique et formelle du Crimson Peak de Guillermo del Toro. Alors que les films sur les femmes fortes réalisés par des femmes pullulent sur nos écrans depuis une paire d'années, Emily est loin d'être un projet opportuniste pour sa réalisatrice qui avoue s'être reconnue très tôt dans les pays des personnages du roman alors qu'elle était élève dans une école catholique et qu'elle découvrait la prose de la plus gothique des sœurs Bronte. Ce sentiment de non-appartenance à un milieu qui ne la comprend pas, entouré par des éléments donnant une dimension quasi fantastique à une nature qu'elle chérit, elle ne l'a pas oublié 40 ans plus tard et espère bien que cette retranscription en film va elle aussi pouvoir inspirer un nouveau public féminin, tout comme elle l'a été lors de ses années de formation. Alors pour ce faire, elle se débarrasse des conventions habituelles des biopics naphtalisés et prévisibles et épouse la psyché gothique et tortureuse de son personnage principal, justifiant l'emploi de son seul prénom en titre du film. Ne soyez donc pas surpris lorsque surgit au détour d'une réunion familiale une soudaine scène de spiritisme où Emily, portant un masque blanc moulé sur les traits de sa défunte mère, parle à son assemblée comme le ferait la mère précipitée juste avant, glaçant l'audience par l'intensité de son jeu et se demandant justement s'il y a vraiment un jeu ou s'il y a manifestation paranormale.
Who are you?
Le pari de retracer la vie au final si peu sensationnelle et spectaculaire d'Emily Bronte en film, et qui plus est pendant la terrible période du Covid et les confinements qui n'ont pas aidé l'entreprise, paie, car l'incarnation palpable qu'insuffle Frances O'Connor à son entreprise, qu'elle signe de sa plume et de sa mise en scène, est à l'image des hauts des hurlevents. D'une situation simple, voire banale, l'impétuosité et la créativité s'invitent dans le temple de l'austérité comme un éléphant dans un magasin de porcelaine et passionnent le spectateur jusqu'à la dernière image, relais, passage de relais d'une sœur de talentueuse à une autre, à l'écriture tout aussi fascinante. Emily devrait être le film de l'explosion pour son interprète Tite, Emma McKay, vue jusqu'à présent dans la série Sex Education, vue aussi en second rôle fort érotique du Morcelloni de version Kenneth Branagh et prenant la poussière dans le soporifique Eiffel de Martin Bourboulon. Mais aussi, révélation, on pense pour Alexandra Dowling, l'interprète de Charlotte Bronte, jusqu'à présent cantonnée aux séries. Donc, plus qu'une belle renaissance, on espère qu'Emily sera une nouvelle révélation pour ces trois femmes, comme pour le public, pas encore lecteur des créations de la famille Bronte.
Emily de Frances O'Connor est en salle depuis le 15 mars. Axel, 10 ans, vit avec sa mère Margarita et ses trois sœurs. Ils jouent de la musique, mangent, dorment dans une atmosphère chaleureuse, mais sa mère vit enfermée dans sa chambre. C'est Adios Entusiasmo, qu'on se gardera bien de traduire.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Et croyez-moi, ce ne sera pas long.
Adios Entusiasmo n'est pas le premier film qui rencontre de l'étrangeté de la cellule familiale avec ses codes et ses rites mystérieux. On avait vu de Canine à de Yorgos Lanthimos au cinéma du Hollandais Alex van Warmerdam, pour prendre des exemples décalés et assez proches. Alors néanmoins, le point de départ s'avère singulier de ce premier long métrage d'un jeune cinéaste qui a fait aussi des études de sociologie et de philosophie, ce qui n'a rien d'étonnant au vu du résultat. Cette chronique familiale nous présente une drôle de configuration. Alex, 10 ans, vit avec ses trois sœurs, âgées d'une vingtaine d'années, et sa mère Margarita. Leur appartement est un lieu de vie labyrinthique et un peu sous cloche, où ils semblent tous vivre en harmonie dans une atmosphère alors à la fois apaisante et sombre, avec toutefois un fait pour le moins bizarre. Margarita vit enfermée dans sa chambre pour une raison mystérieuse. Alors si le spectateur attend des explications claires, il risque d'être déçu, tant le film cultive l'opacité de la situation, préférant observer à distance plutôt que de dérouler un arc narratif élucidant un récit qui ne basculera jamais tout à fait dans le fantastique pur, l'effleurant constamment. Alors Vladimir Duran infuse à son film une inquiétante étrangeté. Les enfants discutent avec leur mère qui s'est volontairement cloîtrée dans une pièce. Son absence physique est compensée par son omniprésence verbale. Elle communique tout le temps, comme si au fond tout semblait normal, ce qui ajoute un sentiment diffus de malaise. Alors que se passe-t-il dans cette chambre, cette matière noire, comme le définit le cinéaste lui-même? Pourquoi la mère ne sort-elle pas? Est-elle malade ou contaminée? Autant de questions qui resteront sans réponse dans cet objet arty, iconoclaste, qui hélas, à force d'exhiber fièrement son dispositif un peu compliqué, finit par ne plus raconter grand-chose. Adios Entusiasmo a tous les défauts d'un premier film, de son ambition à sa petite vanité expérimentale, n'affrontant sans jamais vraiment le cœur de son histoire, préférant rester à la surface et laissant donc une sensation d'inachèvement. Alors c'est dommage, hein, d'autant que le cinéaste fait preuve d'un vrai talent de dialoguiste, de directeur d'acteur, mais aussi de metteur en scène compétent, soignant particulièrement la lumière, hein, souvent en clair-obscur, et le cadre, usant par ailleurs d'un formatscope particulièrement étouffant, là qui écrase littéralement les personnages. Alors, pour son originalité et son audace, hein, Adios Entusiasmo, hein, tourné d'ailleurs il y a 6 ans, mérite malgré tout d'être vu si on aime un cinéma un peu bizarre et pas très confortable.
Bon, si vous étiez là au début de cette émission, vous aurez compris que c'est le film qui a le moins d'écran. Hein,
c'est pas très surprenant.
Pour cette émission, évidemment.
Alors,
c'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai.
Ça se termine toujours comme ça.
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine, tu auras un film.
Oli Emi, un curieux film grec, un peu fantastique.
Nous parlerons aussi de Dalva, et nous avons eu le plaisir de rencontrer la réalisatrice. À la semaine prochaine.